Shalom Ouvracha, shalom à tous, Erev Tov. Alors oui, c'est vrai, je suis désolé, c'est pas l'horaire officiel, l'horaire habituel des Shiurim. D'habitude, je fais le cours le matin, mais pour des raisons techniques, d'enfants qui n'ont pas encore repris l'école, machin, c'était un peu compliqué. Mais cours il y aura tout de même. Je me rends compte là que je suis très mal positionné par rapport à ma lumière. On va se mettre comme ça, ça va très bien. Voilà. Donc, Erev Tov Lekoulam, et c'est parti, on est lundi, enfin on est Yom Shlishi, Bemet en hébreu, mais bon, on va dire qu'on est encore lundi. Et donc, eh bien, on revient dans notre étude hebdomadaire du lundi, à savoir notre étude de la Tefila. Et on avance à grands pas vers la fin de la Shmoneh Esrei, puisqu'on arrive maintenant à la 15e sur les 19 brachot de la Shmoneh Esrei, qui on appelle la 18, donc vous avez compris. On arrive à la 15e bracha. Nous sommes maintenant... Eh bien, dans la bracha de l'expectative, puisqu'on va parler maintenant du Mashiach ben David. Lorsqu'on avait étudié, les semaines précédentes, qu'on avait étudié la bracha de Bonnet Yerushalayim, eh bien, on avait vu que ça se termine en disant « Vechise David avdecha me'era letocha tachin ». Et on avait parlé de préparer la kissé, le trône de David. Et donc, on a dit, il ne s'agit pas là-bas de la demande pour le Mashiach ben David, mais de cette préparation qu'on avait expliquée longuement comme étant Mashiach ben Yosef. Ici, une fois qu'on a terminé avec la préparation, eh bien on arrive à la bracha de Et Tzemach David Avdecha Me'era Tatzmiach. En vérité, cette bracha, avant qu'on rentre dans les mots de la bracha, elle pose la question eh bien, de la royauté qu'on redemande finalement. Quand on a parlé de la bracha de Geoula, de Kherout, on n'a pas du tout parlé de comment... concrètement, cette reroute, cette liberté nationale, se gérer. On n'a pas parlé du tout de système politique. Et là, c'est le moment d'en parler, puisqu'on parle ici de David, donc on parle ici d'une dimension de royauté, de malchoute. Est-ce que cela veut dire qu'il faut effectivement une royauté, un système politique monarchique, ou eh bien, le système démocratique, par exemple, peut faire l'affaire au niveau de la Torah? Quel est le mishtar, le système politique proposé par la Torah? Eh bien, oui, évidemment que dans le texte de la Torah, de la Bible, du Pentateuque, on va parler de Melachim. On ne parle pas de Nessim en tant que président, on parle de Melachim. Parce que la culture de l'époque, c'est que le dirigeant s'appelle un Meler, point. Est-ce que cela veut dire que c'est uniquement cela que la Torah préconise, qu'il faut un Meler, c'est-à-dire une dynastie, quelqu'un qui règne et qui va faire régner son fils après lui? Est-ce que c'est ça l'obligation demandée par la Torah? Oui, vous allez me dire quelque part dans la paracha de Shoftim, on dira « Som tassim alecha melech ». Mais là encore, bien mal avisé serait celui qui dirait « Ben voilà, donc tu vois qu'il manquait melech, il manquait melech ». Melech, ça veut dire chef politique. À l'époque de la Torah, c'est évidemment un roi, mais est-ce qu'un président, premier ministre, peut avoir ce statut? Eh bien, d'après les Klalé Piskat Psaku, d'après Klalé Psika du Roche, Klal 6, alinéa 8, eh bien, Rabbeinu Hashav Rabbi Yehiel à Roche nous explique que la démocratie est la base du système, quel qu'il soit, proposé par la Torah. Puisqu'on nous dit, Achare Rabim Laatot, qu'on doit aller à la majorité. Et que donc, eh bien, un dirigeant qui serait élu démocratiquement, eh bien, est tout à fait légitime en tant que malchut, en tant que possédant le pouvoir politique d'après la Torah. D'ailleurs, le roi, même quand il s'agit d'un roi au niveau royauté, eh bien, lui aussi, ce n'est pas une monarchie absolue de droit divin. Bien que Dieu, par exemple, ait dit qu'il fallait couronner David, que ce soit le prophète Shmuel qui ait couronné David, tant que le peuple n'a pas reconnu David, il n'est pas roi. Et lorsqu'il l'est, mais que le peuple ne le reconnaît plus, il n'est plus roi. Lorsque David, dans le livre de Shmuel Beth, chapitre 15, 16, eh bien, va subir le putsch de son fils Avshalom, et que le peuple suit Avshalom, eh bien, David fuit et n'est plus roi. Comment on le sait? Eh bien, le Talmud nous dit qu'à ce moment-là, lorsque David emmenait un korban khatat, eh bien, il amenait un seira, seira, c'est-à-dire une chèvre, non pas une chèvre, oui une chèvre, la femelle du bouc. Alors que le roi, doit lui se emmener comme sacrifice un bouc. En d'autres termes, David, lorsqu'il n'est plus soutenu par l'ensemble du peuple, eh bien, il n'est plus roi. En d'autres termes, la démocratie, elle marche très bien au niveau du système légitime prôné par la Torah. D'un autre côté, on a quand même la dimension de Malchut en tant que Meller, qui a quand même été, j'ai envie de dire, pas seulement rêvé, mais ancré dans l'histoire juive durant ces 2-3 000 dernières années. Et donc, il faut se poser quand même la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre quand même un roi? C'est la question que va se poser le natif de Volozhin, Rabbeinu Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Yeshiva de Volozhin. Eh bien, le natif répond à la chose suivante. Il dit, lorsque la Torah nous dit « Som tassim alecha melech » mais que les Bnei Israël vont demander dans le livre de Shmuel « Donne-nous un, donne-nous un roi comme les autres nations », le natif explique que ce n'est pas forcément quelque chose à prendre de manière péjorative. Parce qu'il faut comprendre au stade de la manière suivante. C'est une indication de lecture. Le natif nous dit « Regarde les pays qui sont autour de toi ». Si là où il y a un roi, ça se passe mieux que là où il n'y a pas de roi, eh bien c'est la preuve qu'il est temps de mettre un roi. En d'autres termes, dit le natif de Volozhin, les autres nations qui sont autour de toi te servent de curseur. Tant que tu vois que là où il y a un roi, c'est la tyrannie, eh bien tu te rendras compte qu'il ne faut pas mettre un roi. Mais si tu commences à voir qu'autour de toi, les monarchies qui sont autour de toi sont mieux, plus exemplaire, eh bien, il semblerait que ce soit le signe pour dire que c'est le moment de changer de système politique et de mettre un roi et non plus un premier ministre comme on l'entend aujourd'hui. Je répète que dans tous les cas, ce sera quand même démocratique, comme on l'a expliqué il y a 2 secondes. Donc, la question de la royauté est vraiment une question qui est centrale finalement dans le judaïsme. Et quand on va la pousser jusqu'au bout et qu'on parle maintenant du Mashiach dans Etzemach David Avdecha, eh bien, la question qui se repose, c'est la question de la royauté messianique, puisqu'on parle aussi de Meler à Mashiach. Et le Rambam va être possède très clairement à la halakha qu'il doit s'agir d'un Meler. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que, il y a un Meler. Cependant, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va nous faire état d'un des Amoraïm, qui s'appelait Rabbi Hillel. Et Rabbi Hillel, dans le traité de Sanhedrin, à la fin, par Ichelek, eh bien, nous dit une phrase terrible. Il nous dit « En laem Mashiach l'Israël ». Ça, il n'y a plus de Mashiach pour Israël, il n'y aura pas de Mashiach pour Israël. Et lui dit, parce que toutes les prophéties qui parlent du Mashiach se sont réalisées à l'époque de Chizkiyahu Melech Yehuda. Bon, évidemment, la Gemara n'est pas d'accord avec lui, elle va dire « Mais comment tu peux dire ça ? La preuve, c'est que Zechariah, un avis, il va prophétiser sur le Mashiach, et Zechariah, il vient après Chizkiyahu. » Et donc, la Gemara va dire « Char et les mar et le Rabbi Hillel », ça veut dire « Pardonne-lui Dieu à ce qu'a dit Rabbi Hillel, c'est terrible ce qu'il a dit. » En d'autres termes, le mainstream du judaïsme n'est pas d'accord de dire qu'il n'y a pas de Mashiach pour le peuple juif. Ceci étant, le Rav Kook, dans les Kvatzim, Mektaviat Kocho, dans les nouvelles, les nouveaux traités qui sont sortis, qu'on peut trouver dans Shmoneh Kvatzim par exemple, le Rav Kook va poser une question. Il dit, j'entends, ok, très bien, on n'est pas d'accord avec Rabbi Hillel, mais il n'empêche que pour la postérité, il est resté Rabbi Hillel. Ce qui veut dire que son avis, bien que rejeté, n'est pas anti-Torah complètement. Pourtant, d'après le Rambam, celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, il va voir. Donc il dit, c'est pas possible que Rabbi Hillel n'ait pas soustrait aux 13 Karim du Rambam, aux 13 articles de foi du Rambam. Bon, évidemment qu'il y a un anachronisme, évidemment qu'il y a 750 ans entre les deux, mais c'est pas important. Donc le Rav Kook se pose la question, il dit, mais alors qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi Hillel? Et il répond que la question n'est pas de savoir s'il y aura le Mashiach ou pas il y aura le Mashiach. Il y aura le Mashiach. La question est de savoir, est-ce que le Mashiach aura un rôle de Meler tel qu'on l'entend dans la Torah, à savoir un dirigeant du peuple, et c'est lui qui est le patron, c'est lui qui décide, c'est lui le chef, ou est-ce que le Meler sera Itsugi, sera tout simplement représentatif, sera honorifique, du style la reine d'Angleterre. Est-ce que le Mashiach, c'est le chef d'État ou est-ce que c'est un représentant de l'État? Il dit, machal le ma'adavar domé, on peut expliquer ça avec un homme qui serait le chef de la famille Befoal, mais qui invite son arrière-grand-père à s'asseoir en tête de table, parce que ça lui fait un grand kavod que son arrière-grand-père soit à la tête, de la table et fasse comme si c'est lui qui gérait tout, alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est le petit jeune qui a invité tout le monde, qui gère les événements. En d'autres termes, on dit le Rav Kook que pendant 2000 ans, le peuple juif a rêvé du Machiav ben David, tu ne vas quand même pas lui prendre ce rêve-là parce que le peuple juif a réussi à se driver tout seul, parce que c'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'on a besoin d'un chef qui va faire tout à notre place ou est-ce que nous, le peuple juif, on est capable de faire ? Donc, que ce soit comme ça ou comme ça, que le Machiav soit celui qui fasse tout le boulot ou qu'on soit suffisamment grand pour faire le boulot et le Machiav est un représentant honorifique, dans tous les cas, arrive un stade lorsque le Mashiach est en place, où effectivement, il grandit et sa dimension quadruple, cinquuple, dix-duple, ce que tu veux. Dit le Rambam, « Kshetit yashev malchuto alav » lorsque sa royauté sera bien établie, « Ah, à ce moment-là, tout le peuple juif suivra le roi HaKodesh, la prophétie qui règnera sur le Melech HaMashiach. » En d'autres termes, il y a un moment donné où effectivement, quoi qu'il arrive, le Mashiach prend une dimension tout à fait supérieure. C'est tout cela qui est mis dans notre bracha. Et tzemach David avdecha. On parle de David avdecha en tant que tzemach. Et tzemach, eh bien, c'est l'un des noms du Mashiach. Je vous renvoie à ma vidéo sur le Mashiach. L'un des noms du Mashiach, c'est tzemach, comme il est marqué dans les prophètes. En d'autres termes, quand on parle de tzemach David, c'est évidemment du Mashiach qu'il est question. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça ? Eh bien parce que le Mashiach doit être capable de faire les choses petit à petit, comme une tzmicha, comme un végétal qui pousse doucement, doucement. Donc on nous dit ici, « Et tzemach David avdecha ». Aval, d'accord, on a compris que ça devait prendre du temps. « Aval bechol zot mehera tatzmiach ». Mais c'est « mehera tatzmiach », tu viens de dire que ça prenait du temps. Pourquoi est-ce que tu viens et tu demandes après ? Non, mais fais que ça pousse vite. Et c'est Mar David Avdecha, on comprend que ça doit prendre du temps. Mais au moment où le processus est enclenché, fait que ça aille vite. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à partir du moment où le processus est enclenché, les gens n'ont pas forcément la capacité d'attendre longtemps dans le processus. Vous savez, c'est comme quand tu as, je ne sais pas moi, je vais vous donner l'exemple de mes enfants, qui, quand ils sont dehors de la maison, Ils ont faim, mais ils gèrent. Ils arrivent à la maison. Ah, j'en peux plus d'avoir à manger. Deux secondes. Pose ton sac, calme-toi. Non, j'en peux plus, je veux manger. Mais attends, mais t'avais faim pareil il y a 2 minutes. Mais il y a 2 minutes, t'étais dehors, t'étais pas encore à la maison et donc tu gérais. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, j'en peux plus, animou rêvette. J'en peux plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, par exemple, c'est elle qui dit ça. Donc à ce moment-là, eh bien, il faut bien comprendre que lorsque ça me paraît loin, c'est loin, mais lorsque je me dis, mais attends, ça y est, c'est là, j'ai passé le pas de la porte, je suis à la maison, je suis prêt, j'ai envie que ça arrive, Maher. Donc, Bemet et Tsemar David Avdecha, Mehera Tatsmiach. Mehera Tatsmiach. Vekarno Tarum Bishwate. Ma fille essaye de me chatouiller, ça ne marchera pas. Ça marche pas. Vekarno tarum bishuatecha. Mais c'est karno a keren shelo. Mais qu'est-ce que ça représente? Keren. Keren, elle croit que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Vekarno tarum. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Vekarno tarum bishuatecha, c'est-à-dire, et que son... sa corne, Tarum, Rom, Ram, Venissa, Gadol, s'élève. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Keren, c'est ce qui se voit de loin. C'est ce qui arrive le Merachok. C'est ce qu'on voit en premier. Dans un animal qui a des grandes cornes, eh bien, la première chose qu'on voit de l'animal, c'est ses cornes, bien avant qu'on voit l'animal lui-même. Donc, on veut que l'aura du Mashiach arrive avant qu'on puisse voir le Mashiach lui-même. Donc, Vekarno Tarum Gadol Bishwatecha. Mais attention, Keren, c'est également l'abondance. Alors oui, vous allez me dire, mais oh, attends, ça c'est pris de la mythologie grecque. Baro, Barreau, mais n'oubliez pas que l'Anshei Knesset Agdola, lorsqu'il parle, eh bien, il parle à l'époque, justement, de l'ambiance grecque. Et donc, les symboliques peuvent être prises à un moment donné de là et de là. Lorsqu'on parle de la corne d'abondance, eh bien, c'est quelque chose qui fait écho à tout le monde, pas que au peuple grec. Et donc, quand on dit « Karnot arum bishuatecha », il est évident qu'il y a également une abondance énorme et que doit amener le Mashiach. Oui, merci Alex. Bien sûr, il recommence demain. Mais tu sais comme moi que demain, c'est qu'un retzikoach. Il commence un petit peu, machin. Mais bon, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, un jour, les enfants seront à l'école pour de vrai. Amen. Donc, Vekarnot Arum Mishuatecha. Kilishuatecha Kivinu Kolayom. Non, c'est Lishuatecha Kivinu Kolayom. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Et puis, on ne l'aurait pas déjà entendu quelque part ? Si. On l'a entendu dans le livre de Bereshit. Lorsque Yaakov Avinu fait la bracha à ses enfants et qu'il arrive au chevet de Dan, eh bien, il dit « Lishuatecha kiviti Hashem ». La Yeshua shelcha. L'or que tu me donnes la Yeshua, c'est la Yeshua de toi. C'est ta Yeshua à toi, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ta Yeshua à toi, Dieu ? Tant que Melech HaMashiach n'est pas là, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être dévoilé tel qu'il se doit dans ce monde. Et donc, finalement, le dévoilement du Mashiach, ce n'est pas seulement pour nous, c'est d'abord et avant tout pour lui. Donc, Veli Shuatecha Kivinu Kolayom. Bien sûr que ça va nous faire du bien également, mais c'est d'abord et avant tout pour pouvoir permettre au dévoilement de Dieu de se prononcer comme il se doit. Donc, Veli Shuatecha Kivinu Kolayom. Les Ashkenazim, les Nusar Sfard vont rajouter Umetsapim Lishua. C'est-à-dire que dans le Nusar Ashkenaz et le Nusar de Bnei Dota Mizrach, on dit simplement Vishotra Kivinu Metsapinu Kolayom. Ce qu'on a dit. Les Ashkenazim, les Polonais, les Chassidim, ils vont rajouter, ils disent bon, puisqu'on va parler de ta Yeshua à toi, Argam Metsapim Lishua pour nous. Donc on dit, Ve le Yeshuatra qui vient nous coller, ou Metsapim, là nous, les Yeshua, grâce au Mashiach. Baruch Ata Hashem, Matsmiach Keren Yeshua. C'est-à-dire que, encore une fois, cette dimension, elle doit être Kim'a, Kim'a. C'est ce qu'on a vu dans le Talmud de Jérusalem et dans l'histoire, dans le traité de Brachot, de Yoma. On mentionne l'histoire de Rabbi Chiya Agadol et de Rabbi Shimon ben Chalafta, deux des grands sages d'Eretz Israël qui se baladaient Bevikat Arbel. Ils se baladaient comme ça dans la vallée du Arbel pendant la nuit. Et tout d'un coup arrive le petit matin, et au petit matin, ils voient Ayelet HaShachar, c'est-à-dire l'aurore ou l'aube. Je me trompe tout le temps. À chaque fois, je demande, on m'explique, et à chaque fois, j'oublie. J'arrive pas. C'est deux notions que j'arrive pas. Il y a une notion qui s'appelle la Yalet HaShachar en hébreu, Ve'anet HaChama après, c'est-à-dire le moment où la lumière commence à revenir, mais il n'y a pas encore le soleil, et le moment où le soleil se lève. C'est-à-dire, en hébreu, Yalet HaShachar, c'est le début de la lumière, Anet HaChama, c'est le lever du soleil. Il y en a un, c'est l'aurore, l'autre, c'est l'aube. Je ne me rappelle jamais les trucs. Donc, si vous savez, mettez là où il faut. Donc, il voit Ayelet HaShachar, le moment où la lumière revient. Et à ce moment-là, Rabbi Chiya Agadol, il dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, « Kach hi ge'ulata shel Israël. » Ba'atchala kim'a kim'a. Au début, c'est tout petit à petit. Tu vois pas, pouf, il fait nuit, et pouf, le soleil, il est à midi. Léat, léat, un peu de lumière, un peu de lumière, un peu de lumière, un peu de lumière, le soleil se lève, il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut, il est au zénith. Donc, « Ze kim'a kim'a kach hi ge'ulata shel Israël. » Et donc, Baruch Ata Hashem Matzmiach Leat Leat, Keren, pour avoir une influence sur toute l'humanité, Yeshua, tant chez la Kadosh Baruch Hu que chez la nous. Voilà, à bientôt les amis!